19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine, les amis. Ça fait toujours plaisir, hein, on se dit, on passe le week-end, mais très vite on est rattrapé par les ondes. Eh bien, chers amis, bonsoir, c'est parti jusqu'à 20h, les informés, nous sommes ensemble pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. Vous le savez, ici même. Alors, au menu, ce que je vous propose aujourd'hui, j'ai toute une série, exceptionnellement toute une série d'interviews. On devait recevoir la ministre ce soir, et elle s'est excusée, elle est un peu souffrante, on lui souhaite un bon rétablissement. Alors, on va parler de la dictée géante qui nous attend prochainement. C'est avec Naïma Sifer, une élue. Ensuite, 19h20, Félix McCart, un ancien communicant qui va nous parler de son ouvrage, Les Nouveaux Omades, La Revanche d'Abdel, enfin plutôt d'Abel. Ensuite, 19h30, le Quad Neuf, avec Maître Philippe-Henri Honegger et son regard sur le convoi de la liberté. 19h40, c'est notre élu du côté de la Normandie, Jonas Haddad, qui sera avec nous pour parler de Valérie Pécresse. Mais Valérie Pécresse, que s'est-il passé ce week-end? Est-ce qu'on peut parler de naufrage? Les militants sont partagés, les critiques évidemment fusent de partout, et puis surtout, l'inquiétude grandit. Allez, 19h02, les informés, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et d'aujourd'hui, c'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Naïma Sifer, une élue. Bonsoir Naïma Sifer.
Bonsoir Adil.
Comment ça va ma chère Naïma?
Très bien, merci.
Vous êtes, rappelez-nous vos multiples casquettes. Vous êtes élue, vous êtes dans l'association des maires de France. Mais effectivement, j'ai presque... Non mais ce serait presque une bio là, à décrire hein, autour de vous.
Oui, effectivement, je suis secrétaire générale de l'Association des élus de France. Je suis aussi présidente et fondatrice des rencontres de la diplomatie culinaire et maire adjointe dans une commune de l'Essonne, donc à Angerville.
Eh bien, bravo. Naïma Sifer, vous êtes avec nous ce soir pour parler de la dictée géante qui est incarnée par quelqu'un qu'on connaît bien ici, hein. Rachid Santaki, écrivain, scénariste, qui est le fondateur de la dictée géante, qui est producteur aussi délégué chez France Culture. Cette dictée géante, alors, le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous d'ailleurs qui s'inscrit avec les élus. Comment elle s'est faite d'ailleurs comment a été, en tout cas, posée cette dictée géante avec les élus? Comment vous en avez parlé? Comment vous avez échangé avec Rachid Santaki?
Eh bien, déjà, notre association, c'est une association transpartisane et profondément républicaine, comme vous savez. La dictée, c'est se retrouver autour de la nostalgie, de la dictée qui a été pratiquée dans notre enfance. On a tous le souvenir d'une dictée qu'on a faite, donc sur les bancs de l'école, rassemblant des enfants de la nation, quelle que soit leur origine sociale ou culturelle. C'est aussi se retrouver autour de la langue française. On parle souvent de la langue de Shakespeare. Mais la langue française n'est pas en reste par rapport à la langue de Shakespeare, et elle est pratiquée quand même par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Et surtout, Adil, c'est aussi c'est se retrouver autour du vivre ensemble.
Oui.
Écrire ensemble, au milieu d'une campagne, comme vous le savez, qui est parfois âpre, c'est aussi l'occasion de revenir à des choses qui aident à faire l'unité et à faire France, tout simplement.
Dites-moi, Naïma Sifer, donc justement, cette première, avec justement les élus, comment va s'inscrire le rendez-vous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Rachid de Santaki, et comment il va s'inscrire ce rendez-vous? D'ailleurs, prochain, c'est le 22 février, me semble-t-il.
Tout à fait, c'est ce dimanche à 16h, donc ça passera à la mairie du 19e. Nous avons, avec Rachid Santaki, choisi avec notre honorable parrain, donc l'ancien ministre Jean-Louis Bianco, et ancien président de l'Observatoire de la laïcité, qui aura la belle tâche de faire la dictée, de lire la dictée sur le thème de la liberté et de l'engagement, donc en présence de la ministre Elisabeth Moreno, que l'on remercie une nouvelle fois d'avoir répondu présente lors de cette dictée.
Alors Naïma Siffer, comment, qu'est-ce qui va se passer durant cette dictée? Que va-t-il évidemment se produire? Est-ce qu'on va assister par exemple dans le dispositif Naïma Siffer? On va parler du dispositif. Combien de d'élus aujourd'hui se sont inscrits pour cette dictée qui est très attendue d'ailleurs, parce que je vois d'ailleurs circuler sur les réseaux sociaux. On en parle pas mal, hein. Les élus ont joué le jeu d'ailleurs.
Exactement, on est déjà plus de 200 élus inscrits. Donc ça se passera en présentiel pour les élus de l'AEF et en distanciel pour les élus qui la feront de chez eux. Donc tout sera mis en place pour pouvoir assurer justement cette dictée en distance. Donc comme l'année dernière, ça sera exactement pareil à distance. On aura deux lauréats cette année. Les élus qui auront fait zéro faute et ceux qui auront mobilisé le plus de membres du conseil municipal départemental ou régional à participer à cette dictée.
À participer à cette dictée, justement. Vous rappelez-moi, vous êtes combien à participer à cette dictée?
Alors, pour l'instant, il y a 200 inscrits, mais les inscriptions ne sont pas encore clôturées.
200 donc, inscrits, c'est pas mal, hein?
Oui, c'est pas mal. L'année dernière, on a fait 400. Donc, cette année, on a envie de faire autant ou plus. Et c'est pas trop tard parce que les inscriptions viennent tout le temps à la dernière minute. Donc, on appelle vraiment les élus à défendre leur couleur orthographique lors de cette deuxième édition de la grande dictée transpartisane.
Alors justement, cette dictée géante autour donc de qui est d'ailleurs le 22, hein, c'est ça, le 22 février. Hein.
Tout à fait.
Le 22 février, j'ai vu qu'il y avait pas mal de d'élus issus notamment de la diversité qui jouent le jeu concernant ça. Alors est-ce que cet exercice concernant la dictée géante à la clé, il y a quelque chose qui vous attend?
Oui. Alors déjà c'est le 20 février, dimanche 20 pardon Adil.
C'est le 20 février, d'accord.
Oui, c'est le 20 février à 16h. Donc oui, effectivement, il y aura des lots bien sûr à gagner. Donc les deux vainqueurs rentreront dans leur territoire sous les arcs de triomphe avec deux places salon pour un match de PSG d'une valeur de 400 euros chacune, après l'effort, le réconfort, si je puis dire, et une journée corporelle dans un centre dédié à la simulation de la réalité virtuelle. Voilà, les deux lots à gagner.
Alors, donc si j'ai bien compris, vous m'arrêtez, c'est bien la deuxième édition hein, pour cette grande dictée géante. Hein.
Exactement.
Est-ce que vous comptez battre votre record cette année avec ce défi?
On l'espère, cher Adil. Je dirais aux élus qui nous entendent préparer cette dictée avec un bon bécherel. Mais j'ai envie de rassurer aussi les élus parce que c'est un peu les inquiétudes de chacun et chacune. Les copines ne seront pas vues par tout le monde. Ils ne seront pas sur les réseaux sociaux. Personne ne verra les copies, uniquement ceux qui auront fait les zéro faute. Donc pas d'inquiétude à avoir.
Dimanche prochain, fin février à 16h. Donc on est bien d'accord, c'est tout ça dans une convivialité, évidemment, dans un bon esprit.
Exactement.
Avec, évidemment, l'amour de la langue française. Vous avez dit que le parrain, ce sera Jean-Luc Bianco, l'ancien ministre, d'accord?
Tout à fait.
Qui a décidé de parrainer cette édition. Il y a aussi, notamment, deux lauréats, l'élu qui a fait zéro faute.
Oui.
On est d'accord?
Exactement, zéro faute. Et l'élu qui aura rassemblé le plus d'élus dans son conseil municipal, départemental ou régional.
Les deux vainqueurs, je vois que des places seront pour un match du PSG, donc des places salon en VIP, hein, avec voilà chacune. Hein, donc c'est quand même des places qui coûtent extrêmement cher. Et ça aussi, c'est à la clé pour les vainqueurs.
Exactement, 400 euros de valeur de 400 euros chacune. Tout à fait.
400 euros. Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Qu'est-ce que vous pouvez vous Naïma Siffer, maire adjointe et puis élue, qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième édition de la dictée géante?
Eh bien, dit le rassemblement. Voilà, on se rassemble tous les élus. Nous les appelons à se rassembler autour justement de cette belle langue française qui est la nôtre pour ce moment, ce grand moment républicain.
C'est aussi défendre quelque part. Ça nous renvoie aussi à la notion orthographique, hein, justement. C'est l'occasion. Exactement. Vous êtes d'accord?
Bien sûr.
Est-ce que vous avez le sentiment que la jeune génération aujourd'hui est en divorce avec l'orthographe, ou au contraire, vous avez le sentiment, Naïma Siffer, qu'ils sont conscients, notamment qu'aujourd'hui, la langue française est une qualité, est un véritable bagage?
Bien sûr, c'est un vrai bagage, Adil, et malheureusement...
Mais pour la jeune génération?
la jeune génération, c'est, ça se perd. Malheureusement, avec les textos, ils ne lisent plus. Les enfants d'aujourd'hui, malheureusement, ne lisent plus comme nous. Avant, on avait pu lire. Et tout ça, ça se perd et c'est vraiment dommage. Le français, c'est une très belle langue et on a besoin de ça pour tous les jours. L'informatique, c'est bien, mais écrire, c'est encore mieux.
Écrire, c'est encore mieux. Justement, est-ce que cette dictée géante permet aussi aux jeunes, collégiens, lycéens, étudiants aussi notamment, de renouer avec l'orthographe? Parce que vous avez raison, Naïma Sifer, c'est vrai que c'est problématique aujourd'hui quand on rédige des textos. Il rédige des textos, évidemment, sous la forme de raccourcis, quoi.
Exactement, tout à fait. Et du coup, malheureusement, ça se ressent après sur l'orthographe.
Oui.
Parce que la dictée, il n'y a pas mieux qu'une belle dictée, rassemblée autour de ça. Et donc, nous appelons vraiment les élus à jouer le jeu.
Qu'est-ce que vous dites à cette jeune génération, justement, qui vous écoute, quand on parle de dictée, quand on parle d'orthographe, quand on parle de langue française?
C'est très important. Et que lire, il faut lire pour s'instruire et écrire aussi l'orthographe, c'est important dans la vie de tous les jours, que pour écrire des mails, des courriers, etc. Donc vraiment, j'appelle les jeunes à renouer avec la dictée. Et la dictée, c'est normalement un temps convivial de partage. On a tous connu la dictée et il faut vraiment que ça revienne dans les mœurs.
Comment ça se passe concrètement le 20 janvier, le 20 février prochain à 16h? C'est sous quelle forme d'ailleurs? Ça se traduit sous quelle forme pour celles et ceux qui souhaitent participer par exemple à distance?
Alors, ceux qui souhaitent participer à distance, un mail va leur être renvoyé avec le lien.
Oui.
Ils devront juste tout simplement se connecter, attendre et on ouvrira la dictée à tous.
Eh bien, merci.
Et ce sera aussi sur Direct Citoyen pour les citoyens, les non-élus, si je puis dire, qui veulent aussi faire cette dictée.
Donc on a bien noté, on l'aura, il faut un rendez-vous à ne pas manquer. Dimanche 20 février à 16h, la dictée géante avec un peu plus de 220 participants élus justement qui sont inscrits. Une dictée géante, deuxième édition, extrêmement attendue cette année. Bravo, et d'ores et déjà, j'ai envie de dire... je vous souhaite bon courage, Naïma Sifer.
Merci beaucoup, je
vous le souhaite, évidemment, d'être parmi les vainqueurs.
C'est gentil, cher Adil. Si je ne suis pas appropriée pour gérer le distanciel.
Exactement. Merci, Naïma Sifer.
Merci à toi.
Merci, maire adjointe dans l'Essonne, mais également aussi secrétaire général de l'Association des maires de France. Merci infiniment. On va marquer une courte pause pub. On se retrouve ici même, vous aussi au 01 53 48 3000, avec Félix McCart, qui lui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Nouveaux Nomades. À tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. 19h, 20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Les Informés, 19h20, si vous le souhaitez nous appeler, bien sûr, on vous attend au standard au 01 53 48 3000. Concernant évidemment les différentes actualités, à la fois le convoi de la liberté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez vécu? Ont-ils le droit? Est-ce que, je me pose la question d'ailleurs, est-ce que le convoi de la liberté, il n'est pas en train de disparaître alors qu'il vient de naître? La question que je pose, parce que c'est vrai que, bon, il a aussitôt existé et aussitôt va-t-il disparaître? Au 01 53 48 3000, je vous attends. Ensuite, autre sujet, c'est celui de Valérie Pécresse avec son grand meeting de ce week-end, d'ores et déjà extrêmement critiqué. Xavier Bertrand la critique. Bref, personne ne comprend la manière dont, évidemment, elle a tenu son meeting. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup sont inquiets. Les militants, d'ailleurs, sont partagés, mais ils sont inquiets. Inquiets parce qu'ils se disent, finalement, Valérie Pécresse, est-ce qu'elle tient la route pour être présidentiable? Allez, l'invité du jour aussi, autre invité du jour, dans Les Informés, c'est également un ancien communicant, celui qui faisait en sorte de réunir tous les influenceurs de ce monde. Il a marqué évidemment son époque. Il s'appelle Félix McCart. Il est avec nous, l'invité du jour. C'est parti.
Les Informés, l'interview.
L'interview, justement, c'est avec Félix McCart. Bonsoir, Félix McCart.
Salut, Adil, comment ça va?
Mais plaisir de vous retrouver, mon cher Félix. Moi, je vais très bien. Et vous-même, comment vous allez? Vous savez, pendant longtemps, vous avez disparu de la sphère de la communication. D'abord, j'ai envie d'expliquer à nos auditeurs qui nous écoutent partout en France. Félix McCart, vous avez été un ancien grand communicant parce que vous avez fait le pluie et le beau temps, vraiment, dans ce monde je dirais, avec les stars des médias, les influenceurs, les riches, même les ultra riches. Vous avez passé votre vie à réunir le tout Paris avec le tout New York, évidemment, et tous les autres, à faire en sorte de les provoquer, et de faire en sorte surtout que ces politiques, grands patrons, artistes, se retrouvent autour, évidemment, de thématiques que vous organisez autour de dîners. Ça a disparu, ça, Félix McCarthy?
Ah oui, ça a disparu, ouais. C'est marrant, Adil, vous avez toujours, depuis le temps, je me rappelle que c'est chez vous que j'avais formulé la première fois ce qui est devenu un cri de guerre à une époque qui était « barrez-vous ». Vous avez toujours, cher ami, le sens de l'envolée lyrique. Je serais un petit peu plus modéré dans ma description de ma vie passée. Vous parlez d'une époque... que j'ai marqué mon époque, j'espère qu'aujourd'hui je peux continuer de faire des choses intéressantes.
En tout cas, moi j'ai été témoin, on voyait défiler les Bill Gates, on voyait défiler évidemment les grands patrons de ce monde. Est-ce que c'est pas monté un peu à la tête? Est-ce que à un moment vous vous êtes dit c'est trop monté? Et c'est tellement monté que vous aviez du mal, vous avez été dépassé par les événements. Je vous pose clairement la question, Félix McCarthy.
Bah, c'est même pas ça, Adil. Comme vous le savez sans doute, puisque vous êtes bien informé et que vous lisez la presse, je viens de faire une longue, longue interview avec Vanity Fair dans laquelle je décris en fait à quel point justement les choses me sont montées à la tête et comment j'ai fini. Non pas juste par travailler avec les puissants, mais également par prendre de plus en plus de drogue,
oui.
Et donc à me retrouver sous l'emprise de l'addiction. Et donc ces 8 années qui nous séparent presque,
oui.
Qui nous séparent de cette époque, petit à petit, je les ai consacrées notamment à me libérer du joug de l'addiction.
Justement, est-ce que Félix McCarthy, avec McCarthy, Anne McCarthy, hein, votre spécialité, c'était justement que tout ce beau monde se retrouve autour de la communication. Vous avez toujours le bras long aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer cela encore?
Non, moi j'ai pas le bras long. S'il faut le bras long, je suis plutôt comme la Vénus de Milo. Je dirais non. De toute façon, moi, ça fait quelques années que, essentiellement, je passe mon temps à écrire. Il y a 4 ans, j'ai signé un contrat avec un éditeur anglo-saxon qui s'appelle Simon & Schuster pour écrire un livre qui était un petit peu, que je voyais comme le prolongement du mouvement Barrez-vous. Et finalement, je pensais que ça me prendrait 4 mois à écrire ce livre, et en fait, ça m'a pris presque 4 ans. Je l'ai écrit en anglais. Et aujourd'hui, il est sorti en janvier, et demain, je vais faire la première séance de rencontre dédicace.
On va en parler justement.
À Paris, chez JPR. À Paris.
Et c'est où alors? Ça se passe où précisément, la séance de dédicace, Félix McCarthy?
C'est au 15 bis, boulevard Saint-Denis, demain, à 17h30. C'est dans le 2e arrondissement.
Dans le 2e arrondissement, rendez-vous à ne pas manquer autour de votre ouvrage. Les nouveaux Zomades, justement, la revanche d'Abel. J'aimerais juste, avant d'en parler, mon cher Félix McCarthy, c'est un plaisir de vous retrouver dans Les Informés, justement. Dites-moi, vous avez décidé de quitter la France pour vous installer en Suède, parce que vous vouliez sortir de cette foule, justement, cette foule que vous aviez vous-même décrit comme une foule déchaînée. Alors que vous êtes hyperactif, ça vous a pas cassé un peu, justement, d'aller vous installer en Suède? Vous aviez besoin que les choses, de poser un autre cadre?
Non mais attendez, moi je dirais pas que j'appelais cette foule déchaînée. À l'époque, la drogue, moi j'ai toujours eu une solide dose d'amour propre, et même peut-être un peu trop, et avec la drogue ça a dégénéré assez gravement en narcissisme mégalomane. Donc, c'est pas que la foule était déchaînée, c'est que je cherchais la lumière à tout prix et que j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Or, en l'occurrence, je me suis pas juste attiré l'attention de personnes bien disposées à mon endroit, mais également l'attention de certains qui m'en voulaient. Donc, j'ai cherché les coups et je les ai trouvés. À un moment, c'est devenu un peu invivable de vivre en France, pour moi. Je suis parti en Suède, qui est un pays où je ne connaissais personne, et j'y ai refait un peu ma vie. Hein. J'ai maintenant un enfant là-bas. J'ai passé les 6 dernières années à vivre en Suède, à Londres, et puis en Grèce, entre une petite île au large de Bodrum qui s'appelle Patmos,
oui,
et la capitale, Athènes. Et là, je rentre à peine en France depuis quelques mois. Je suis de retour à Paris et je me régale maintenant. C'est-à-dire maintenant que les choses, que je me suis un peu calmé, que j'ai retrouvé le sens de la mesure, des limites, ma foi n'a cessé de croître depuis que j'ai arrêté d'ingérer de la drogue et de l'alcool. Mmh. J'ai cette chance, j'ai un rapport au très haut qui est très 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 fort, qui est vraiment une relation au quotidien.
Oui.
Et je m'en réjouis.
Bon, écoutez, nous, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir, évidemment, d'avoir d'excellentes nouvelles vous concernant, Félix McCarthy. Alors, aujourd'hui, vous êtes, après avoir été longtemps directeur de la communication de Tribune Herald, justement, aujourd'hui, vous avez décidé de vous consacrer à la plume, l'écriture, Félix McCarthy. Alors, justement, je voudrais qu'on parle des Nouveaux Nomades. Moi, je l'ai lu attentivement, vous nous avez embarqué avec vous, hein, bravo, hein, pour la revanche d'Abel. Et si la sédentarité n'était qu'une parenthèse dans l'histoire du monde ? Alors ma première question, votre ouvrage, l'ouvrage qui est aux éditions Le Passeur. Première question, Félix McCarthy. D'abord, bravo pour les Nouveaux Nomades. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, moi, le livre que vous avez écrit, c'est un beau pavé. Pourquoi ce parallèle en permanence avec la migration ? Je vous vois souvent parler de migration, et l'immigration notamment, les réfugiés africains ou orientaux, qui fuit d'ailleurs le pays. On est en pleine actualité. Votre livre, il est dans l'actu, là, non ?
Alors, justement, en fait, moi, je trouve complètement dingue qu'on est à une époque où on est tellement obnubilé en France pour des raisons de politique à 2 francs, hein, même pas à 2 euros, mais à 2 francs, par des questions d'obsession sur les flux migratoires et en l'occurrence sur l'immigration, qu'on a oublié complètement le fait que l'immigration, ça n'est que la moitié du processus,
oui,
migratoire.
Oui. Oui.
Et donc, moi, je voulais écrire un livre sur l'autre côté du processus, c'est-à-dire sur l'émigration.
Ah, l'émigration, avec un E. L'émigration.
Voilà.
D'accord.
Parler sans cesse de migration en abordant que celle-ci par le prisme de l'immigration sans jamais parler de l'émigration, c'est un peu comme si on parlait de la respiration et que je vous parlais tout le temps d'inspirer sans jamais parler d'expirer. Ça n'a pas de sens.
Et justement, dans votre ouvrage, vous voulez nous apporter un regard neuf concernant un regard neuf sans préjugés d'ailleurs, et sans angélisme d'ailleurs, vous le dites vous-même. Hein. Mais c'est quoi les limites quand on parle de jeunes migrants, de migration ? C'est quoi ?
Bah, je dirais que aujourd'hui, quand j'ai écrit Barrez-vous, il y a quelques années, j'avais tendance à voir les choses de manière un peu simpliste. C'est-à-dire pour moi, pour pouvoir en fait grandir, pour croître, pour prendre de la hauteur, il suffisait de partir de chez soi et ça permettait de s'émanciper, de s'éduquer et bien d'autres choses encore. Mmh. Je continue de penser qu'on ne sait pas qui on est tant qu'on n'est pas parti de chez soi.
Alors, c'est pas mal ce que vous dites. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se barrer pour mieux se connaître ?
Bah, bien sûr.
Oui.
On ne sait pas qui on est. Je veux dire, un Français qui a jamais quitté la France,
oui,
il ne sait pas ce que c'est la France.
C'est pas faux.
Il ne sait pas ce que d'autres gens vivent. Donc à mon sens, un des moments fondateurs de l'expérience humaine, c'est le,
oui,
moment où on quitte le bercail. C'est pas forcément d'ailleurs en quittant la France. Hein. Je dis, si on est angevin, monter à Paris peut être la même expérience de la séparation avec d'où l'on vient.
Oui.
Mais le fait de partir est fondateur. Mais il y a une autre réalité, c'est quand je parle de limite, c'est que ce que j'ai découvert, c'est que l'inégalité aujourd'hui dans le monde ça se mesure avant tout en termes d'inégalité, de mobilité.
Donc vous arrivez un peu à contre-courant alors, dites-moi, quand on entend Éric Zemmour, quand on entend Valérie Pécresse, justement sur la situation alarmiste, Valérie Pécresse qui a fait une déclaration il y a quelques semaines, quelques jours d'ailleurs, quand elle a dit qu'il y avait plus de migrants en Europe, qu'il y avait énormément de migrants alors que les chiffres sont faussés. On l'avait tressé ici, on l'avait évidemment commenté ici dans les informés. Félix Macart aussi, quand on entend Éric Zemmour, ou encore sur le grand remplacement, ou encore Valérie Pécresse ce week-end. Alors, vous répondez quoi ?
Oh, écoutez, moi, je...
Parce que vous en parlez dans votre ouvrage.
Je pense qu'on est à un moment dans la trajectoire humaine où il est urgent de prendre de la hauteur et de regarder les choses dans leur ensemble. Vous savez, en écrivant ce livre sur le nomadisme, j'ai notamment rencontré pas mal d'aborigènes. La culture aborigène sur la planète Terre, elle est là sans discontinuer, non pas depuis 200 ou 300 ans, puisque M. Zemmour prétend être féru d'histoire parce qu'il connaît quelques auteurs français, deux auteurs allemands, un auteur arabe des trois derniers siècles. Je vais vous expliquer, la culture aborigène, elle est sur la planète Terre sans discontinuer depuis 60 000 ans. Mmh. Donc quand on en vient aux inégalités, quand on en vient à l'effondrement climatique, quand on en vient à toutes les grandes problématiques du monde contemporain, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas la perspective requise quand on s'intéresse uniquement aux dernières 50 années.
Alors c'est qui alors pour vous ?
Ou même aux derniers 300.
Oui, c'est qui pour vous les nouveaux nomades alors ?
D'abord je dois finir sur,
allez-y,
sur Zemmour. C'est pas très sérieux comme manière de regarder le monde. Prétendre avoir de la hauteur, prétendre avoir une vision historique, quand on s'intéresse à un tout petit coin du monde et à sa culture sur quelques dizaines d'années, voire quelques siècles, en fait, on n'a pas aujourd'hui, en 2022, la stature requise pour pouvoir prétendre au mandat suprême en France.
C'est pas sérieux. Dites-moi, avant de lancer la pub, parce qu'effectivement, on a une contrainte, les nouveaux nomades, pour vous, c'est qui ?
C'est toute une ribambelle de gens. C'est justement le propos du livre.
Oui, c'est-à-dire
qu'aujourd'hui, quand on parle de migrants, on ne pense qu'aux gens qui sont sur des radeaux de fortune dans la Méditerranée, ou bien à ceux qui se pèlent à la frontière biélorusse. Alors qu'en réalité, les migrants, c'est toute personne qui vit plus d'un an en dehors de son pays de naissance, c'est-à-dire aujourd'hui énormément de gens, beaucoup, beaucoup plus de gens. Je crois que c'est environ 500 millions de personnes dans le monde en 2022. Donc, en réalité, ça inclut les gens, ce qu'on appelle les expatriés, ça inclut les jeunes nomades digitaux, ça inclut énormément de gens. Et donc j'ai fait en sorte de pas m'intéresser uniquement à un réfugié syrien qui vit en France ou un réfugié irakien qui vit en Suède, mais également à un Sénégalais qui est parti faire ses études en Chine, une Française qui est partie s'installer à Bogota, un Américain qui est allé faire le tour du Sierra Leone et puis ensuite celui du Moyen-Orient. Donc j'ai regardé les choses dans toutes les directions pour me rendre compte qu'en réalité, cette obsession qu'on a en France qui consiste à penser que le monde entier veut se pointer ici pour prendre leur argent aux Français, prendre leur travail aux Français, mais c'est du fantasme.
Hein.
Je veux dire, c'est
dites-moi,
il n'y a aucune réalité qui va dans ce sens. Enfin, les faits ne vont pas dans ce sens.
Dites-moi, Félix Macart, ma dernière question. Quand on voit la campagne qui... Ça y est, hein, on est à 60 jours de l'élection présidentielle, du premier tour. Quand on voit l'ambiance aujourd'hui, ma question est très simple, Félix Macart. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à celles et ceux qui vous écoutent partout en France ?
Écoutez, je pense que cette présidentielle va se jouer dans un mouchoir de poche, parce que quand vous demandez aux gens aujourd'hui, est-ce qu'ils sont dans la campagne ? La plupart d'entre eux vous disent, pas vraiment. Donc il y a, on est à peu près au même moment en 2017, il y avait 20 points de plus, il y avait 20% de plus de Français qui disaient qu'ils étaient vraiment intéressés dans la campagne, etc. Donc il y a on est à une époque où on ne cesse d'aller vers un taux d'abstention aberrant, on est reparti pour un tour.
Dites-moi, Félix Macart, est-ce que vous restez ce personnage infatigable aujourd'hui?
c'est vous qui êtes infatigable, mon cher Adil. Non, moi je suis très fatigable et d'ailleurs je vais pas tarder à aller me coucher. Je vous parle d'Athènes.
Ah, d'Athènes.
Donc je suis une heure après vous. Il fait déjà nuit noire. Ouais. Et donc je suis tout à fait fatigable mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous, cher Adil.
Merci. Vous savez, nous on a tendance à le dire, mais on se connaît. On ne lâche rien.
On ne lâche rien, il faut pas.
Les nouveaux hommages. Oh,
je dirais quand même, il faut se rappeler dans la vie, le secret de la vie, c'est pas de rien lâcher, c'est au contraire de lâcher prise.
Aussi. Les nouveaux nomades, La revanche d'Abel, c'est l'ouvrage, le tout dernier, de Félix Macart, ancien patron de la communication de l'International Herald Tribune, ancien fondateur aussi de Think Tank, Black Elephant, aussi les dîners de l'Atlantique. Souvenez-vous, aujourd'hui, il se donne à l'écriture. Je vous invite à aller découvrir Les nouveaux nomades aux éditions Le Passeur. Et il est passionnant comme ouvrage. Facile à lire, mais surtout une belle balade pour aller mieux découvrir ce monde que vient nous esquisser Félix Macart. Merci d'avoir été nous, Félix, et à très bientôt, hein, au plaisir.
Salut Adil, et à demain chez Gibert.
Exactement, à demain. Redonnez-nous l'adresse.
Je vous redonne tout.
Voilà.
Demain, ce sera à 17h30 au 15 bis. Chez Gibert, c'est au 15 bis boulevard Saint-Denis, dans le 2e arrondissement de Paris. J'espère vous y retrouver nombreux.
Allez le voir, justement. Merci. On lance la pub tout de suite avec beaucoup de retard. Je suis désolé. Je suis désolé auprès du Quad Neuf de Maître Philippe-Henri Honegger, qu'on retrouve juste après la pub. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informés avec Adil Farkan.
19h42, tout de suite le Quad Neuf.
Les informés, le Quad Neuf.
Et mon cher Philippe-Henri Honegger, cher Ruben et associé, désolé mon cher maître, vraiment désolé parce que j'ai été embarqué dans une interview sans fin. Voilà, bonjour.
C'était passionnant.
C'était vraiment passionnant. Vraiment un ancien grand communicant, je ne sais pas si vous le connaissez, Félix Macart, vous l'avez connu?
Je le connaissais pas, mais j'ai écouté ce qu'il disait, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
Eh ben allez vous rendre demain il fait une séance, il faut y aller, demain j'y serai, donc il faut vraiment que les auditeurs, on se retrouve demain là-bas, évidemment au rendez-vous. Maître Philippe-Henri Honegger, vous avez décidé de signer votre billet d'humeur, eh bien, concernant ce fameux convoi de la liberté, mais la question que vous posez, est-ce que c'est pas la fin de la liberté? Ou de nos libertés?
Bah oui, parce qu'il y a 2 ans, si vous m'aviez demandé, et d'ailleurs on en avait parlé il y a 2 ans, comment on appelle un régime politique dans lequel la population est limitée dans son droit de circulation sous peine de prison? Un régime politique dans lequel la population est sous la menace permanente d'un couvre-feu. Il lui est interdit d'aller dans les restaurants et les autres lieux publics sans justifier de la prise d'un traitement médical qu'on a décidé pour elle. Une population qui est contrôlée, surveillée en permanence, avec une application sur son téléphone qui permet de connaître quasiment en direct l'endroit où elle se trouve et les gens avec qui elle est en contact. Si vous m'aviez posé cette question, je vous aurais répondu sans aucune hésitation. Ouais. Bah, on appelle ça un état autoritaire. On appelle ça une dictature. C'est l'opposé même de l'état de droit, de l'état de liberté pour lequel nos nations occidentales se sont tellement battues et ont mis tellement d'efforts pour réussir à construire ce système-là. Et c'est quelque part terrifiant, quelque part stupéfiant quand on prend un tout petit peu de recul de se dire que aujourd'hui, en ce moment, des gens de toute la France essayent de se réunir, de manifester simplement pour demander qu'ils arrêtent de vivre dans ce système-là. Simplement pour dire qu'ils aimeraient bien retrouver ces libertés qui paraissaient, il y a à peine 2 ans, oui, Tellement une évidence. Et c'est vrai que c'est ironique de se dire que il s'appelle le
convoi des libertés. Et que ce convoi des libertés, on l'a annulé sans aucune hésitation, avant même qu'il puisse se trouver, avant même qu'il puisse s'organiser dans toute la France, j'allais même dire dans toute l'Europe, puisque Bruxelles a fait la même chose. On leur a dit non, mais attendez, la liberté, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a rien de pire que la liberté. C'est un trouble absolument caractérisé à l'ordre public. Alors bien sûr, il y a toutes les justifications qu'on connaît depuis 2 ans, les raisons sanitaires, évidemment, il y a le Covid, la crise, l'état d'urgence, le conseil sanitaire, et puis c'est voté par l'Assemblée nationale. On est quand même une démocratie, mais quand même, toutes ces interdictions, toutes ces restrictions extrêmement importantes aux libertés qu'on a connues, et puis cette atteinte très directe au droit de manifester, on n'avait jamais connu ça, même avec les gilets jaunes. On leur a même pas laissé le temps de poser la question, qu'on leur a dit non, ne manifestez pas, la liberté, c'est trop dangereux, on n'en veut pas.
C'est ça.
Et puis, moi, je me pose pas la question, vous savez, du droit vaccinal ou pas, le pass, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas ça ma question, il y a plein de raisons de l'accepter, de pas l'accepter, c'est pas ça ma question. Mais je me dis simplement, on en est arrivé tellement loin, tellement dans la psychose sanitaire et autres, on s'est tellement habitué qu'en fait aujourd'hui, le mot liberté est synonyme de risque. Le mot liberté est synonyme de trouble à l'ordre public. Et je me demande, je m'inquiète, de savoir si peut-être on n'est pas allé trop loin, si peut-être on n'est pas trop conditionné. Et je me demande très sincèrement, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver un jour à retrouver ses libertés? Est-ce qu'on va y arriver psychologiquement à se dire que mais finalement la liberté c'est pas si mal, c'est pas tellement un risque, la liberté c'est bien, il faut l'espérer, il faut pas interdire les gens qui veulent leur liberté. Et je m'inquiète, et j'espère que ça arrivera, je vous le souhaite, je nous le souhaite, mais vraiment je m'inquiète.
Et vous êtes souvent visionnaire, maître Philippe Honegger, hein?
Bah, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais dit des choses que
vous avez dit des choses à l'époque, ici même d'ailleurs, dans mes émissions, qui se traduisent aujourd'hui, hein.
Bah oui,
vous me faites peur. Vous me faites peur. Vous êtes avocat ou vous êtes voyant?
Mais j'essaye maintenant, vous savez, de lancer des appels pour que les gens se disent mais oui, on va se battre pour nos libertés.
Ah oui,
on va y arriver.
Vous savez que vous êtes très influent auprès de notre audience, hein, partout en France. Hein. Ils vous kiffent, nos auditeurs d'ailleurs, hein, maître Philippe Honegger.
Eh ben, je les kiffe aussi.
Eh ben, à lundi prochain sans faute. Merci, mon
à
cher
lundi,
maître Philippe Honegger, maître Philippe Henri Honegger, cher Ruben associé, à lundi sans faute. Merci à vous. Allez, tout de suite, c'est l'invité.
Les informés, l'interview.
L'invité pour parler de, vous savez, de Valérie Pécresse et la question que je pose concernant si c'est un véritable naufrage ce meeting de ce week-end et beaucoup poussent un coup de gueule, notamment Xavier Bertrand. L'invité, c'est l'un de ses porte-parole, il s'appelle Jonas Haddad qu'on connaît aussi. Mon cher Jonas Haddad, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Jonas Haddad,
vous retrouver.
Ben moi aussi, je suis très ravi de vous retrouver, Jonas Haddad. Porte-parole de Valérie Pécresse aujourd'hui. Valérie Pécresse, les militants partagés, les critiques fusent dans tous les sens. Bertrand, choqué par les propos de Valérie Pécresse quand elle parle du grand remplacement. Il pousse un véritable coup de gueule. Vous dites quoi, Jonas Haddad?
Je vous dis d'abord que j'étais dans la réunion en question avec David Bertrand et qu'il n'a absolument pas poussé de coup de gueule sur la ligne politique.
Ben aujourd'hui, c'est... Oui.
Non, il a simplement dit que ce qu'il fallait maintenant, c'est que ce soit vraiment la chef de la campagne et que dans ce cadre-là, il ne fallait pas toujours, si vous voulez, que ce soit potentiellement dans la synthèse.
Oui.
Il fallait qu'elle donne le cap et que lui, il était totalement à son service.
Alors,
Si vous voulez,
Jonas Haddad, je vous pose la question.
Je suis en charge chez Valérie Pécresse, et parce que je vous dis que parfois il y a beaucoup de fake news dans cette campagne.
Bon, beaucoup de fake news, alors justement, ça tombe bien que vous soyez avec nous. Vraiment, Jonas Haddad, monsieur le porte-parole, est-ce qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse a convaincu ses militants, a convaincu les Français, objectivement, Jonas Haddad?
Oui, moi je vous dis, j'étais présent à ce meeting, les militants sont partis très convaincus. Simplement, la réalité, c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a le filtre de l'écran, et que le filtre de l'écran fait que les gens n'ont pas été convaincus, pour certains, en tout cas je vois notamment chez les commentateurs, par le fait que sur ce genre de meeting, sur cette façon de faire, elle n'est peut-être pas dans le charisme habituel de ce qu'ils voient dans les grands meetings, dans les meetings de Mélenchon, ou dans les meetings de Zemmour. Après, moi, ce que je dis, et je pense que nos auditeurs peuvent en être convaincus, c'est qu'est-ce que vous préférez? Un Zemmour ou un Mélenchon qui disent parfois des horreurs, soit les uns sur les musulmans, soit les autres sur la police qui veut mettre au pas, etc., mais qui sont d'excellents orateurs, ou vous préférez quelqu'un qui est en capacité d'être à la...
Alors justement, les auditeurs se posent la question, les auditeurs se posent la question aujourd'hui, avec notamment l'association SOS Racisme, elle aussi, hein, qui a jugé pas dignes les propos de la candidate Valérie Pécresse. Les propos de Valérie Pécresse ne sont pas dignes d'une prétendante majeure à la présidence de la République, en faisant référence notamment avec le grand remplacement. SOS Racisme parle de médiocrité, d'irrationalité, et notamment qu'elle est sous l'influence de l'extrême droite, et notamment Éric Zemmour. Pourquoi avoir parler du grand remplacement?
Alors, tout simplement pour dire qu'elle ne validait pas cette théorie. Donc là encore, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce qu'en fait, elle n'a jamais validé cette théorie. Elle a dit qu'elle ne voulait pas céder à cette facilité. Ça, c'est un premier point. Quant à SOS Racisme, je peux pas être plus clair, hein, vous voyez, là pour le coup, quant à SOS Racisme, ça me fait marrer de les voir donner des bons et des mauvais points quand M. Sopo a été récemment condamné parce qu'ils n'acceptaient pas le terme de racisme anti-blanc. Mmh. Je veux dire, c'est exceptionnel que ces gens-là donnent les bons et les mauvais points, alors que son président vient d'être condamné. Mmh.
Mais qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent les théories d'Éric Zemmour aujourd'hui, ils sont incarnés par Valérie Pécresse? On voit bien, tout le monde en parle aujourd'hui. Enfin, moi je voudrais vraiment qu'on décrypte un petit peu, si vous voulez, Jonas Haddad, ce meeting qui a été... La grille de lecture n'est pas du tout la même.
Écoutez, ce meeting, en fait, c'était un meeting dans lequel l'objectif, c'était de pouvoir mettre en avant et de rassembler les différentes sensibilités de la droite et du centre. Et dans la droite et dans le centre, il y a des gens qui sont plutôt des libéraux, il y a des gens qui sont plutôt portés sur les questions de sécurité, il y a des gens qui sont plutôt portés sur les questions de sociales. L'objectif de Valérie Pécresse, c'était de faire en sorte de pouvoir répondre à ces différentes aspirations de la droite, qui ont toujours été au cœur de la droite. La droite, ça a toujours été l'équilibre. Et je peux vous assurer qu'elle a parlé de la dignité, que la différence, par exemple, de M. Zemmour, elle a dit que nous ne serons pas pour exclure les enfants handicapés des écoles, vous voyez, et qu'elle, elle ne considérait pas que le maréchal Pétain avait protégé les Juifs. Donc vous voyez, ça c'est comme des différences qui sont un peu majeures, et mon alpha et mon oméga quand je me lève le matin... Je suis certain que c'est le cas aussi des auditeurs, alors, pas Éric Zemmour.
Monsieur le porte-parole, monsieur Jonas Haddad. Alors, moi je veux bien entendre évidemment tout, je suis factuel. Ce grand meeting devait être le plus grand meeting de lancement de cette campagne en quelque sorte, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui alors à ceux qui sont les cadres du parti, donc vous les connaissez, pour la plupart qui étaient présents au premier rang au Zénith de Paris, qui ont jugé la candidate de la droite qu'elle n'était pas du tout au niveau. Même certains ont parlé de naufrage. Les ténors de la droite n'ont pas hésité à étrier ce meeting de Valérie Pécresse. Jonas Haddad.
Alors, c'est très simple. Il y a deux personnes dont il y a eu des extraits. Il y a eu Nadine Morano et il y a eu Hervé Morin. Et Hervé Morin a très clairement dit que quand il lui avait dit « accélère Valérie », c'était lorsqu'elle était montée sur scène. Donc moi, en public, je n'ai entendu personne faire des critiques sur la prestation de Valérie. En revanche, ce qui est certain, c'est que, à la différence des autres meetings, cette fois-ci, c'était le premier meeting où il y avait beaucoup d'enthousiasme. J'étais présent.
Oui.
Et vous savez, quand vous avez...
Vous avez vu une belle ambiance vous-même?
Ah, mais c'était incroyable.
Incroyable.
Et surtout, elle s'est arrêtée à plusieurs reprises, parce qu'en fait, les jeunes... était avec les grosses caisses et des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que ça faisait énormément de bruit. Vous connaissez le Zénith, hein?
Bien sûr.
Beaucoup, voilà. C'est un chaudron. Et ça faisait beaucoup de bruit. Donc, de temps en temps, il y avait des arrêts, il y avait des blancs. Mais on est quand même sur un meeting qui a blindé le Zénith. On a ouvert une salle à côté.
7500 personnes, selon les organisateurs. Et en plus, la salle du Cabaret Sauvage à côté, effectivement.
Vraiment, les gens sont repartis hyper motivés.
Alors, qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs qui vous écoutent partout en France, qui hésitent encore, qui sont indécis, et qui se disent, les sondages sont pas bons, elle n'incarne pas suffisamment, évidemment, cette campagne. Vous leur répondez quoi, Jonas Haddad? Monsieur le porte-parole.
Je leur réponds pas sur les sondages, parce que sinon, elle est deuxième sur les sondages derrière Emmanuel Macron depuis 6 mois. Ça, je pense que les sondages, ça convainc pas forcément tout le monde. En revanche, la réalité, c'est que si ils considèrent que leur vie va mieux depuis 5 ans, je les invite à voter pour Emmanuel Macron. Mais je suis persuadé que la plupart des auditeurs ne considèrent pas que leur vie va mieux depuis 5 ans. Et donc, soit ils votent pour Valérie Pécresse dès le premier tour pour être une alternative.
Oui.
Soit ils vont se retrouver avec le second tour Zemmour, Macron ou Le Pen, Macron. Et sauf erreur de ma part, on ne veut pas encore une fois être l'extrême droite qui nous prive d'un choix.
Eh bien écoutez, on continuera d'en parler justement. Jonas Haddad, le porte-parole des Républicains de Valérie Pécresse. Merci Jonas Haddad.
Merci beaucoup Adil.
Merci à très bientôt. On vous découvrira régulièrement sur notre antenne. Oh là là, Bilal Nedman, en 10 secondes. Bilal Nedman et Time Sport, qu'est-ce qui nous attend ?
C'est ça, ce soir on va parler de l'Olympique de Marseille. Bonsoir à tous et à toutes. L'OM qui évite le piège aux Messins, sans oublier aussi que Saint-Etienne qui remonte et Bordeaux, les Girondins qui coulent malheureusement à Adil. On parlera aussi de Pochettino, l'entraîneur des Parisiens. Demain c'est le match, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, mais demain ça sera le vrai match pour les Parisiens qui rencontreront l'ogre madrilène avec, on l'espère, ben pourquoi pas Karim Benzema. Voilà, voilà.
Merci Bilal Nedman, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 20h-21h. À la réalisation, c'était Yanis. À demain, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.